Europe 1. Jusqu'à 10h ce dimanche, vous êtes avec François Claus pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Et nous sommes avec le professeur Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour François Claus.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, co-auteur avec Jacques Lévy du Pays des Européens, publié chez Odile Jacob. Nous sommes, Sylvain Kahn, à 5 jours d'un sommet des chefs d'État européens où l'on attend une prolongation de la fermeture de l'espace Schengen qui a été à 2 reprises prolongée. Est-ce que vous diriez, Sylvain Kahn, que le Covid-19 a eu raison de ce grand rêve européen d'une libre circulation des biens, mais aussi des hommes ?
A eu raison de, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui et depuis le début de l'épidémie en Europe, c'est sûr qu'il y a eu 2 choses, celles que vous venez de rappeler, à savoir que l'espace Schengen en tant que tel a fermé ses frontières avec le reste du monde. Alors fermer ses frontières, on sait bien ce que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire que c'est devenu complètement hermétique, mais ça veut dire que les conditions pour sortir ou pour rentrer ont été considérablement renforcer de manière à limiter considérablement la mobilité des personnes. Et d'autre part, le deuxième volet, c'est effectivement que à l'intérieur de cet espace Schengen, la plupart des pays européens ont fermé totalement ou partiellement leurs frontières bilatérales avec leurs voisins européens. Donc c'est sûr que dans l'état actuel des choses, la libre circulation, celle que vous évoquiez, qui est à la base du traité de Rome en 1957, est pour l'instant suspendue. Alors il faut quand même signaler au passage, malgré tout, hein, que cette suspension temporaire de la liberté de circulation et du rétablissement des contrôles aux frontières, c'est quelque chose qui est prévu, hein, déjà par le traité de Rome, puis qui est ensuite prévu par le traité de Maastricht et par la convention Schengen.
Mais si on regarde, Sylvain Kahn, l'équilibre politique européen, ceux qui prônaient cette fermeture plus stricte, on pense évidemment à certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, on pense également au mouvement souverainiste en France ou en Italie, du Rassemblement National à Salvini, ils ont aujourd'hui un boulevard devant eux pour valider leur philosophie politique.
Si j'ose dire, ça se discute et ça fait partie du débat public. C'est-à-dire que, en effet, ils peuvent dire aujourd'hui que une partie très importante de leur programme se trouve mise en œuvre, hein, puisque effectivement les mouvements que vous évoquez et qui sont au pouvoir dans certains pays, effectivement, peuvent dire ben voilà, vous l'avez bien dit, il faut fermer les frontières et enfin on y est arrivé. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette fermeture des frontières là où elle est pratiquée, c'est-à-dire à peu près partout, elle est considérée comme provisoire, c'est comme le confinement, si vous voulez. Voilà, hein. Là, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de gouvernements européens qui commencent à organiser le déconfinement, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment confiné. Il est pour l'instant annoncé que la fermeture des frontières est considérée comme provisoire et liée à la lutte contre la pandémie, et que le jour où la pandémie sera sous contrôle, il n'y aura plus de raison de conserver les frontières internes à l'espace Schengen fermées comme elles le sont aujourd'hui, parce que de toute façon, tout le monde est pénalisé, hein, je veux dire, même du point de vue économique, pour ne prendre que le secteur du tourisme, hein, pour ne prendre que celui-là qui est le plus évident, mais aussi ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est-à-dire que les gens qui traversent les frontières pour des raisons de travail, personne n'a intérêt à ce que ça dure trop longtemps.
Paradoxalement, dans cette crise, Sylvain Kahn, on a assisté à un événement qui n'a peut-être pas été suffisamment marqué, mais absolument majeur dans l'histoire européenne. Les fameux critères de Maastricht, ce carcan budgétaire qui déchire à la fois les dirigeants et les citoyens depuis maintenant plus de 20 ans, il a suffi de quelques jours de pandémie pour qu'il saute tout simplement dans une forme d'urgence totale qui va peut-être marquer durablement l'Europe dans une nouvelle politique européenne moins budgétaire.
C'est probable. Alors là, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ces mesures ont été soutenues. Alors il faut rappeler que ce qu'on appelle les critères de Maastricht, donc en clair, limiter ou harmoniser, on va dire, le déficit public d'une part et l'endettement public d'autre part pour l'essentiel, ça s'est mis en œuvre parce qu'on a une monnaie unique qu'on partage. Hein, voilà. Bon. Là, effectivement, il est apparu, mais très rapidement, comme vous le rappelez, François Claus, il est apparu que pour permettre aux États membres, disons, de laisser filer la dépense publique pour soutenir le chômage partiel, pour faire en sorte que les entreprises puissent être aidées pendant le temps du confinement, eh bien, la Commission européenne, qui est la gardienne, on va dire, des règles européennes, a proposé d'elle-même qu'on suspende ces règles, et tous les États membres, effectivement, ont dit, bah oui, il faut le faire. Et je dis bien tous les États membres à l'unanimité, hein, c'est-à-dire que, y compris ceux dont on nous disait qu'ils étaient particulièrement égoïstes. De toute façon, il faut bien voir que ce qu'il se passe en ce moment, c'est une forme d'accélération d'un certain nombre d'évolutions qui étaient déjà en discussion ou dans les tuyaux. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle Commission européenne, présidée par Madame von der Leyen depuis cet été, avait déjà mis, on va dire, en circulation des projets d'assouplissement de ces critères, notamment avec le commissaire français Thierry Breton et le commissaire italien à l'économie Paolo Gentiloni, hein, qui disaient « Bon, bah, de toute façon, maintenant, on sent bien qu'il faut faire évoluer les règles européennes, comme d'ailleurs c'est le cas depuis 1957. Elles ne cessent d'évoluer, même si elles évoluent relativement lentement. » Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui peut paraître, moins immédiat, mais qui est très important, c'est que la réflexion de la Commission européenne et des États membres et du Parlement européen évolue considérablement depuis le mois de mars dernier, donc il y a un an, sur les relations avec la Chine. Hein. La Chine est considérée officiellement, non pas simplement comme un partenaire, mais comme un rival systémique, je cite. Eh bien là, il est clair qu'avec cette crise, maintenant qu'on est en train de se rendre compte que la Chine, n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle a maquillé un certain nombre de choses, qu'elle a tardé à prévenir, qu'elle essaye par moment, disons, de profiter de la situation dans un cadre diplomatique ou économique, eh bien, on se rend compte que ces réflexions qui ont été adoptées il y a maintenant un an deviennent vraiment d'actualité et vont sans doute être accélérées. Et puis enfin, le fait que la Banque européenne d'investissement, le fait que la Banque centrale européenne, pour ne prendre que ces exemples-là, mette énormément d'argent pour soutenir un certain nombre d'actions, y compris dans le domaine social et de la lutte contre le chômage, le fait que la Commission européenne, avec l'accord des États membres, vienne de fonder une réserve stratégique médicale qui va enfin permettre d'avoir ce qui a tant manqué à certains pays comme la France, l'Italie en particulier, et même l'Allemagne ou l'Espagne, à savoir d'avoir des immenses stocks, soit de respirateurs, soit de masques. Bah, effectivement, à un moment donné, on s'est dit, bah, tiens, on a qu'à les faire au niveau européen, ces stocks qui seront mutualisés, financés collectivement, ça coûtera beaucoup moins cher à tout le monde et au moins ils seront là. Tout ça est en train de se mettre en œuvre d'une façon extrêmement rapide, en un mois, alors qu'au moment de la crise des années 2008-2010, il a quand même fallu 4 ans pour mettre en place un certain nombre de mesures et de dispositifs. Mais ce qui est sûr, c'est que la Banque Centrale Européenne montre encore une fois à quel point elle joue un rôle non seulement de pilier, mais de force de réaction rapide, extrêmement impressionnant.
Et comment donc, d'une certaine manière, la pandémie peut aussi renforcer un certain nombre de défenses immunitaires de l'Europe. Merci Sylvain Kahn de nous avoir accompagnés dans vos
avec
réflexions.
Plaisir.
Je renvoie à votre ouvrage, coécrit avec le grand géographe Jacques Lévy, « Le pays des Européens », très joli titre, chez Odile Jacob.